liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 13, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, quoi de neuf?
Eh ben, on a 7 jolis articles cette semaine et on va parler de fric et puis un petit peu de violence sur la fin.
Premier article, solutionlogiciel.com, de la complémentarité génétique du cloud computing et de l'open source, un article de Fabrice Bonan.
Bravo pour avoir réussi à le prononcer comme il fallait, c'était un titre d'article un peu long, un peu compliqué. Donc alors le cloud computing, tu m'expliques?
Cloud computing, c'était deux mots qui ne veulent pas dire grand-chose, qui ratissent très large, c'est les buzzwords comme on appelle ça. Ben, un premier intérêt de cet article, c'est justement de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'expliquer ce qu'il y a. Donc on a des sigles SaaS, PaaS, IaaS, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel?
Bon, c'est de l'infrastructure, des services, et puis le PaaS, ça doit être des produits. Et donc, en gros, on peut, avec le cloud computing, hein, c'est un mot valise, on peut louer des ordinateurs, on peut louer des services, on peut louer des logiciels. C'est pas forcément la même chose, hein, ça regroupe vraiment plein de trucs différents. Et souvent, ben, on met en opposition, alors, pas l'open source hein, chez nous, le libre et le cloud, mais en fait, le libre fonctionne très bien, par exemple, avec l'infrastructure de type cloud.
Alors, c'est un des propos de l'article, hein. Il faut dire que Fabrice Bonan est un chef d'entreprise, donc, et d'entreprise du logiciel libre. Et donc, il explique que c'est totalement complémentaire, qu'il y a plein de solutions actuelles de tous ces services qui fonctionnent sur du logiciel libre, et que tout l'intérêt de ça, c'est de garder la pratique de l'interopérabilité, et pour que les gens gardent la main sur leurs données, et qu'ils puissent éventuellement passer d'une version payante à une version gratuite, etc., et ne pas être enfermés, bien qu'ils soient sur des services hébergés, puisque c'est le grand danger.
Oui, effectivement, là, il parle de vendor lock-in, le fait d'être coincé avec un vendeur bien particulier qui vous fournit une solution logicielle, et une fois que vous l'utilisez, bah alors bonne chance pour en sortir. Et avec le cloud, bah on peut utiliser du logiciel libre, du propriétaire, mais au final, c'est pas forcément incompatible, hein, dans le sens où, de toute façon, une fois que les données ne sont plus accessibles, elles sont gérées par un tiers qui vous les filera pas comme ça, bah bonne chance pour en sortir.
Voilà, il donne l'exemple de Mega Upload, il dit que parmi tous les clients de Mega Upload, certains avaient des contenus tout à fait licites, et qu'à partir du moment où Mega Upload a fermé, bah c'était fini, ils n'ont pas pu les récupérer. Donc ça démontre ce danger-là. Argument intéressant pour une entreprise du libre, c'est de dire, bah, ok, on peut potentiellement, un service hébergé peut potentiellement vous enfermer très méchamment. Tout l'intérêt de garder le principe du libre, bah, c'est de vous permettre de récupérer vos données, de les garder et de pouvoir les exploiter par la suite, bien que vous soyez sur un service hébergé.
Donc c'est le fondateur, un des cofondateurs de Talend. Donc justement, il travaille sur des services de données, de bases de données. Donc il connaît assez bien de ce dont il parle, même s'il va travailler avec du logiciel propriétaire aussi. Hein. J'ai déjà utilisé ce genre d'outils. Mais bon, c'est assez intéressant. On va continuer avec un autre chef d'entreprise. C'est non pas juste la semaine, hein, mais c'est les revues de presse où régulièrement on voit des chefs d'entreprise.
Voilà, on a deux la même semaine. Hein. D'habitude, c'est une fois de temps en temps. Decideo.fr, Stéphane Fermigier publie un livre blanc sur le big data et l'open source, qu'un article de Philippe Nieuwbourg. Le big data, c'est quoi ce truc? Moi, je découvre.
Ben, c'est un peu ce dont l'article précédent aurait pu parler, c'est ce technologie qui est un peu à la mode en ce moment. C'est on n'utilise plus des bases de données, notamment les bases de données relationnelles, mais on utilise des bases de données qui vont plutôt être orientées graphes, des choses un peu complexes. C'est les bases de données utilisées typiquement par Facebook, Twitter et autres saloperies du même genre qui n'utilisent pas ces bases de données traditionnelles, simplement elles ne sont pas assez grosses, il leur faut du gros truc, du gros bourrin, du gros bousin, et ben, y a des gars qui sont spécialisés là-dedans, et il y a des bons outils en libre, hein. Moi je connais CouchDB, y a des trucs Cassandra donc, qui est fait par Facebook qui est pas mal du tout, et il y en a plein d'autres, Hadoop, c'est une grosse mode depuis quelques temps, ça s'appelle essentiellement le NoSQL ou le NewSQL, SQL étant le langage des bases de données traditionnelles. Donc Fermigier, bah là, il vient montrer un petit peu de quoi il s'agit et vient expliquer en quoi ça n'est pas forcément incompatible avec le libre ou en quoi c'est
justement... Il a publié un livre blanc et justement, il explique toutes les convergences entre ça. Donc là, lui, Fermigier, c'est donc le patron de Nuxeo, une autre entreprise qui fait du business autour du libre. Et donc, alors, c'est pas un article directement de lui, hein, c'est Philippe Nieuwbourg qui dit tout ce qu'il y a dans le livre blanc qu'il présente.
Donc j'aime bien la présentation où il présente le cloud et le libre comme étant des frenemies. Donc ce sont des amis qui sont aussi des ennemis. Les deux sont pas forcément compatibles ou pas forcément incompatibles, il y a un petit peu de tout. Donc c'est toujours intéressant et c'est vrai que les technologies vont vraiment dans ce sens-là. C'est pas juste le cloud, c'est une autre façon de voir les mêmes problématiques. Mais en parlant de big data, c'est ça que j'aime bien cette notion-là, c'est qu'on oriente le sujet sur quelque chose d'un peu plus technique et on va tout de suite parler plus facilement du logiciel qui est derrière. Et une fois qu'on commence à parler du logiciel qui est derrière, du logiciel donc Hadoop par exemple, hein, ou CouchDB, donc on va commencer à pouvoir mettre les mains dans du logiciel libre, avec du code source, avec l'origine de ce logiciel, comment on l'installe, comment on le configure, comment on en ressort les données à un moment donné. Et donc on peut être un peu plus libre, ouvert et tranquille d'esprit quand on utilise ces solutions-là.
Lemonde.fr, brevet, Google propose à Oracle une part des recettes d'Android, un article de la rédaction.
Monnaie, encore une fois. Mais là, c'est pas les mêmes sommes, parce qu'à l'origine, il me semble, Google avait été accusé par Oracle d'avoir piqué de sa soi-disant propriété intellectuelle, et Oracle leur avait demandé des milliards de dollars. Qu'est-ce que ça devient ?
En gros, ils ont attaqué des brevets, ces saloperies de brevets et logiciels, qu'ils détiennent sur Java, et donc c'est passé devant un tribunal qui a dit « ouais, c'est pas si grave que ça ». Et donc là, bah, pour se débarrasser du problème, Google fait une proposition avec des chiffres qui... on a du mal à les évaluer parce qu'on ne sait pas combien ils gagnent, etc. Enfin, c'est pas...
Alors, sachant que déjà, ouais, dans le passé, on en avait parlé, il y a eu plusieurs de ces brevets qui sont quand même des sacrées saloperies, mais qui sont acceptées aux États-Unis, qui ont été virées par le juge qui est en charge du truc, en disant, voilà, c'est des brevets idiots ou complètement logiques, étant donné le domaine. Et donc, il n'en reste plus essentiellement que deux, dont un qui va être invalide, enfin, qui va être à la fin de sa vie, à la fin de l'année, en décembre. Et effectivement, là, alors Google propose de rémunérer Oracle à la hauteur de ce qu'il pense intéressant et en lui offrant, c'est quoi, des millions de dollars,
hein. Alors 2,8 millions de dollars de fixe plus un intéressement au chiffre d'affaires, donc 0,5% du chiffre d'affaires d'Android sur brevet, donc jusqu'en décembre prochain, parce que le brevet expire à ce moment-là, et 0,015% sur un deuxième brevet jusqu'en 2018. Donc évidemment c'est le chiffre d'affaires, donc c'est avant bénéfice, donc ça peut être quand même relativement important. On a fait une estimation à la méga louche de chiffre d'affaires d'Android, si ça atteint le milliard dans l'année, c'est le bout du monde. Donc 0,015%.
Oui, ça doit être de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars, hein, par an. Et 0,5, c'est 5 millions de dollars. Ça paraît pas être énorme en vue des enjeux.
Voilà, et de la taille des entreprises.
Donc, mais en tout cas, voilà, une belle saloperie. Il faut le voir à chaque fois comme étant un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en Europe. Il faut vraiment faire attention. Ne pas rentrer dans le brevet logiciel, c'est un champ de mine en puissance.
Investir en Tunisie, Tunisie open source, les avantages de l'ouverture au public, un article de Moncef Beda.
Donc on en a parlé aussi la semaine dernière, donc ce qui se passe dans le monde nord-africain et africain. La semaine dernière, il me semble que c'était le Tchad. Donc là, il y a eu des réunions qui se sont passées en Tunisie, sur la communauté, et il y a quelques gars intéressants, notamment M. Nizar Bougoula, qui à Tunisie Télécom, qui parle et qui présente le fait que la Tunisie a un sacré potentiel de croissance économique en utilisant le logiciel libre, et qui compare notamment avec l'Égypte et la Jordanie, il me semble, pour montrer, voilà, regardez, on peut faire des choses intéressantes en utilisant au maximum au niveau des administrations le logiciel libre, et en l'utilisant pour les données et plein d'autres choses.
Il y a une notion que je trouve très intéressante là-dedans, petite subtilité, mais qui me semble très pertinente. Donc il dit que le logiciel libre n'est pas un moteur de croissance, mais un facteur de croissance économique. Alors ça peut paraître un peu du pinaillage, mais derrière, en tout cas tel que je le comprends, il y a des subtilités. C'est qu'un moteur, c'est en gros, on va voir des gens qui travaillent dans le logiciel libre, et c'est l'activité logiciel libre qui ferait de la croissance. Et on se doute, bah, voilà, l'informatique, ça beau être une activité rentable, etc. À l'échelle de l'économie d'un pays, c'est un petit morceau. En revanche, on sait que l'informatique, c'est une source de productivité, de gains de productivité pour toute l'activité économique d'un pays, et qu'à partir du moment où on le fait en logiciel libre, on peut encore accroître ça, et donc c'est un facteur, donc c'est un côté multiplicateur, une sorte de coefficient multiplicateur bien plus puissant, et je trouve cette idée très intéressante. En tout cas, tel que je la comprends, ça se trouve c'est pas ça qu'il a voulu dire, je surinterprète peut-être.
Moi ce que je vois, c'est qu'ils encouragent vraiment le gouvernement, les administrations et les entrepreneurs à se lancer, à faire du libre, donc c'est vraiment bien, et en plus de ça, c'est une super transition vers l'article suivant.
Et oui, donc la presse, Québec doit réduire sa dépendance à Microsoft, dit le PQ, par Denis Lessard. Alors, le PQ, c'est pas le surnom de Microsoft, c'est un parti politique québécois. On n'a pas trouvé la signification.
On n'a pas bien cherché. Hein. Voilà, nous, on s'est plutôt amusé, c'est réduire sa dépendance. Je sais que tu aimes beaucoup ce rapport. Tu veux dire que Microsoft est un dealer, et ça, ça c'est pas bien de ta part de sous-entendre ça.
Il y a clairement ce côté de l'enfermement qu'on citait tout à l'heure, là, même pas lié à du cloud computing, et en tout cas c'est bien identifié par ce parti politique qui est dans l'opposition. Alors on retrouve des chiffres qu'on avait déjà cités, puisque c'est plusieurs articles qui mentionnent là, depuis ces dernières semaines, le cas du Québec, qui doit renouveler un parc considérable qui tourne sous Windows XP.
Voilà, 738 000 ordinateurs.
Et donc ça se chiffre en milliards de dollars canadiens.
Donc, je crois que c'est 1,4 milliards de dollars à terme pour le changement de licence et les mises à jour.
Donc on retrouve les arguments qui avaient déjà été évoqués là-dessus. Le logiciel libre permettrait de dépenser moins pour faire assurer cette migration.
Ce que j'aime beaucoup, c'est la présentation de l'obsolescence hein, qui est en train d'arriver de fait, parce que le support de Windows XP, qui est vraisemblablement utilisé partout dans ces administrations, il va être terminé dans 2 ans. Donc les gars là sont en train de se dépêcher, de réfléchir et de mettre en place ces mises à jour dans ce cadre-là pour être sûr d'avoir quelqu'un qui les supporte. Donc être supporté par Microsoft, je ne sais pas si c'est forcément un grand avantage, mais eux, ils veulent vraiment continuer à être supportés par
les gros dealers. Tu veux dire que les Québécois sont insupportables ?
Non, mais en tout cas, ils vont le payer cher d'être supportés, et ça, c'est quelque chose. Ils vont le payer des milliards de dollars, parce que là, c'est toujours la même chose hein, dans ce genre de budget. C'est le budget initial, le budget prévisionnel. Qu'est-ce qui va arriver au bout de chaîne ?
Probablement, c'est ce que disaient certains des articles qu'on avait déjà vus, qui était que cette partie prévisionnelle était
bien sous-évaluée et qu'on pouvait vraiment monter.
Et puis que c'était vraiment très difficile d'évaluer le coût réel, et que c'était du prévisionnel pas très fiable.
Ne serait-ce que les machines qui doivent peut-être être mises à jour pour supporter le nouveau logiciel, parce que Microsoft n'est pas connu pour faire des trucs particulièrement légers. Donc ça risque de leur coûter très cher en fin de compte pour en plus être enfermé, quoi. C'est moche. On va continuer avec de l'argent, mais là, c'est plus intéressant parce que c'est une relativement bonne nouvelle. Le journal du Geek, Munich, 4 millions d'économies en 2011 grâce à l'open source de Moe, et donc grâce à l'open source, grâce au logiciel libre. Et donc 4 millions d'euros, c'est pas rien, surtout à l'échelle d'une ville comme Munich.
Et oui, peut-être que les Québécois se sont documentés de ce côté-là. En tout cas, c'est le constat après une migration à la fois du système d'exploitation et bien sûr de la bureautique, faite sur 14 000 postes. Donc Munich a fait ça, ils constatent que rien que sur la migration, donc ils n'ont pas évoqué les gains qu'il peut y avoir éventuellement dans la durée, ils ont économisé 4 millions par rapport à ce qu'ils auraient dû payer s'ils avaient choisi une solution Microsoft.
Alors ils évoquent des gains, ils évoquent un gain pas monétairement, mais c'est que le nombre de problèmes qui sont remontés par les utilisateurs aurait diminué d'un tiers, voire de la moitié. Ce qui est considérable, parce que les problèmes et les remontées, bien ça bloque beaucoup de choses. Non seulement il faut envoyer un technicien, mais la personne qui a ce problème-là, parfois ça l'empêche de travailler, ça la bloque, et ça c'est assez perturbant. Donc là c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment bien. Et puis en plus cet article, il a une photo d'illustration qui est magnifique, allez le voir ne serait-ce que pour ça. Mais lui qui regarde, il est outré, parce que c'est vraiment pas diversité.
C'est une paire de fesses, voilà, il faut le dire, et c'est pas celle de Manu.
Non, mais il y a marqué Ubuntu dessus, ça peut être que bien. Donc on va terminer là avec de la violence et de pure, et voilà. C'est la première fois je crois qu'on a ce genre d'article dans la revue de presse, c'est assez original.
Bug Browser, Mohamed Merah n'a pas été identifié grâce à une loi antiterroriste, mais grâce à un logiciel libre par Jean-Marc Manac. Donc Bug Browser, c'est son blog. Jean-Marc Manac, journaliste spécialiste de questions informatiques et de surveillance.
Qui dit beaucoup de choses très intéressantes, on l'a eu assez régulièrement dans la revue de presse.
Voilà, donc là il remonte sur toute la guéguerre qu'il y a dans la campagne autour des lois antiterroristes qui auraient pu permettre, soi-disant, de remonter à Mohamed Merah.
Oui, c'est des lois qui forçaient à ce que les fournisseurs d'accès conservent les identifiants et les adresses IP des utilisateurs.
Et donc le PS dit, c'est nous qui avons fait la loi, l'UMP n'a pas voulu la voter, l'UMP dit, mais nous on a voté les amendements correspondants, etc. Enfin c'est la guéguerre, et Jean-Marc Manac dit, mais en fait, les traces que Mohamed Merah a laissées sur Internet, c'est sur le serveur du site web qu'il les a laissées, et donc ça n'a rien à voir avec le fait de garder pendant 2 ans, je crois, l'adresse IP de l'utilisateur. Alors évidemment, il fallait quand même joindre les deux, mais toute la partie surveillance, en fait, c'est plus un module de statistiques qui permet de savoir qui a visité combien de fois.
Voilà, c'est les logs d'Apache. Hein. Donc Apache, le logiciel qui permet de faire le plus de sites web sur Internet, doit de l'ordre des 2/3 des sites web sont fournis sur un serveur Apache, et bien les logs remontaient, enfin gardaient trace de l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. Et c'est grâce à ça qu'on est remonté jusqu'au tueur, qu'on a réussi à le choper éventuellement. Donc c'est bien d'un certain point de vue. Effectivement, tu l'as noté, c'est du Big Brother, hein, tout ça. Mais bon, là, c'est incroyable. Un logiciel libre a fait quelque chose dans la vie de tous les jours.
Voilà, il y a un petit côté quand même mauvaise foi assumé par l'auteur de l'article sur cette question de logiciel libre, puisqu'évidemment, c'est une fonctionnalité quand même super basique. Et on se doute qu'un serveur propriétaire aurait fait exactement la même chose.
Bon, sur ce, te dis à la semaine prochaine, Luc.
À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.